la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, il y en a plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Chers lecteurs, chères lectrices, bonsoir, nous sommes en direct dans les studios de 48FM. Je sais ô combien vous êtes nombreux à attendre cette émission après l'annonce le mois dernier du thème que nous devions retrouver. Mais que nenni, il en a été décidé ainsi, point d'érotisme et d'histoire salace. J'ai ouï dire que certaines chroniqueuses ne voulaient point s'écorcher leur douce et cotonneuse langue empreinte de poésie, de verbes agréables, naïfs et non affriolants. Nous nous retournons donc vers des démons, fantômes, têtes coupées, dames blanches et strangulations, car oui, il va s'agir de littérature effrayante en cette période d'Halloween. Nous avons d'ailleurs laissé Claire au repos afin qu'elle n'entende pas ces histoires. Elle n'a pas peur de sortir les soirs de pleine lune dans la forêt de Charpal. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Ça lui arrive de boire de la lave en fusion avant de détruire des villages à coups de marteau. Salut Valérie.
Et tu m'as déjà vu?
Oui, absolument.
Salut.
Elle a des animaux empaillés, des reptiles sous son oreiller. Salut Marlène.
Salut.
Attention, nous allons frissonner. Je frissonne.
C'est le Covid.
Avez-vous peur des fantômes? Si oui, pas de souci, nous allons faire appel à Cassidy Blake, une chasseuse de fantômes dont le premier tome et le second écrit par Victoria Schwab.
Tu me poses la question, je lis la même chose que toi, Victoria Schwab.
Schwab.
On va l'appeler Vic.
Ouais,
voilà.
Vicky.
Toute jeune écrivaine américaine qui est née en 87, auteur de fantasy principalement, connue pour son roman La vie invisible d'Addy LaRue. Mais nous n'allons pas parler de ce roman.
Non, on va parler de Cassidy Blake, qui semble être parti pour être une série. Moi, j'avais deux tomes dans les mains. Bon, j'en ai lu qu'un.
Quoi?
C'est bien déjà.
C'est déjà bien et mais c'est pas mal. C'est un vrai livre pour ados. Pas un livre niaisou pour ados, mais un vrai livre qui s'adresse vraiment aux ados. Les héros sont des ados, une ado qui adore Harry Potter. Donc je pense que déjà c'est bien parti pour marcher auprès des ados. Et ça fera peur aux ados.
Mais est-ce que l'ado a envie de lire des histoires d'ados?
Mais je pense que dans ce cas-là, oui.
D'accord.
Surtout ouais. Des histoires qui font peur. Tu sais ouais. Bien que les ados aiment ce qui fait peur.
Ah, je pense qu'ils vont avoir envie de vivre la vie de Cassidy Blake. Ah. Parce que Cassidy Blake, qui sait, donc c'est une jeune fille. Elle vit au départ, aux États-Unis, je okay. suppose.
C'est assez précis.
Oui, j'avoue que c'est pas hyper important puisque elle va vite déménager.
Ah, hein.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, Cassidy Blake? Elle a failli se noyer il y a un peu plus d'un an dans un lac gelé, et depuis, elle a accès à ce qu'elle appelle elle le voile. Le voile, c'est une espèce de rideau qu'elle ressent à certains endroits, une espèce de qu'elle peut ouvrir, qu'elle peut traverser. Pour atteindre un entre-deux qui serait le monde des morts. Mmh. Donc voilà, il n'est pas présent partout, cet entre-deux, il est présent là où il y a des fantômes qui hantent la Terre. Voilà, donc elle se sent très vite régulièrement attirée par ce rideau, elle le traverse parfois, elle manque d'y rester coincée même des fois, et heureusement, le jour où elle s'est noyée, un des fantômes a traversé ce rideau. Jacob. Mmh. Jacob, il est pas mal, il a les cheveux un peu longs, il est blond, il est un peu cool. C'est un fantôme, mais ceci dit, il est venu la sauver. Comment? Ça, on ne sait pas, puisque les fantômes ne peuvent pas toucher. Mmh. Et depuis, il l'accompagne. Il l'accompagne dans ses aventures. Donc, elle est tout le temps accompagnée de Jacob, son copain, le fantôme.
Ouais,
super
fantôme
cool.
Sympa, quoi.
Ouais, il est chouette. On aime bien Jacob.
C'est Casper, mais un beau.
Ouais. Voilà.
Ah ben Casper était pas mal, je pense, dans sa vie d'avant, non?
Je sais pas, on le connaît, un humain, Casper?
Bah moi, oui. Mais je l'ai peut-être imaginé.
Ok, tu
connais Casper. Ok.
Je ne sais pas.
Bon, bref, ça, c'est un peu le pitch. Et la vie de Cassidy, elle est un peu rigolote parce que ses parents sont spécialistes du surnaturel. Ils connaissent tout en fantômes. Alors, ça la fait bien rire parce qu'évidemment, ils ne connaissent rien aux fantômes qu'elle connaît vraiment. Bon, elle se moque doucement d'eux, mais c'est jamais vraiment méchant. Mais bref, c'est des grands spécialistes du surnaturel. Et un jour, on leur propose d'animer une émission sur les villes les plus hantées du monde, les lieux les plus hantés du monde. Et là commence sa première aventure. Elle va aller à Édimbourg, ville la plus hantée du monde entier, pour accompagner ses parents dans le tournage. Évidemment, ses parents, ça leur donne accès à une émission, voilà, pour leur célébrité, etc. Elle, ça lui donne accès à un nouveau monde de fantômes qu'elle ne connaissait pas, à une ville qui l'étonne à chaque fois, parce qu'évidemment, on s'imagine bien qu'une jeune américaine qui avait prévu de passer l'été au bord de la mer et qui se retrouve à Édimbourg sous la pluie, elle n'est pas emballée.
Cliché.
Ouais, ouais, mais cliché, enfin, cliché assez réussi. Cliché assez réussi parce que, donc, bon, évidemment, elle arrive à Édimbourg et elle traverse le rideau et il y a cette femme avec cette cape rouge qui a plus de consistance que tous les autres fantômes qu'elle a vus jusque-là. Et dans l'immeuble où elle est logée, il y a une petite fille qui a l'air de comprendre ce qui lui arrive à elle, qui a l'air de vivre la même chose. Et en fait, ça va être le départ des aventures de Cassidy, je suppose, qui va comprendre en fait pourquoi elle peut passer ce voile depuis qu'elle est morte, entre guillemets.
T'as spoilé un peu, non ?
Bah, non, mais il a balancé en fait dans son intro, donc je pensais pas aller si loin. Mais si t'as dit qu'elle était chasseuse de fantômes.
Oui, oui. Ah bah, oui, voilà. Mais c'est le
donc,
titre.
Bah, oui, oui,
non, j'ai juste dit le titre.
Mais tu vois, je suis à la page 227.
La prochaine fois,
128.
Alors la prochaine fois, je dirai pas le titre.
Hein. Un livre inconnu.
Mais voilà, elle va en fait, elle va découvrir que si elle peut passer ce voile, c'est peut-être pour pouvoir chasser les fantômes. Évidemment, on imagine bien que Jacob. Son copain fantôme, ça va pas l'emballer cette histoire. Bref, voilà, c'est le début des aventures de Cassidy. Pour un adulte, si moi, ce que ça m'a donné envie de visiter Édimbourg. Franchement, j'ai envie d'aller dans le. Alors, je connaissais pas le Mary King's Close. Les Closes, c'est des villes sous la ville dans laquelle on mettait les pestiférés pour qu'ils vivent entre eux. On les enterrait vivants, hein, clairement. Il y avait.
Oui, oui, vas-y, pardon. Non, c'est Claire qui m'envoie des messages, en fait.
D'accord. Bref, il y avait une vie sous terre de pestiférés, de gens qu'on ne voulait pas dans la ville. Et donc, pour le tournage, elle va dans ce Mary King's Close, là, et elle découvre ce lieu incroyable. Bon, elle découvre plein de lieux incroyables sur Édimbourg. Un adulte, ça lui donnera envie de voyager. Un ado, il va quand même, je pense, avoir des petits moments de frayeur. Je pense que
c'est le thème de l'émission.
C'est pas mal
hein.
Parce que il va un peu frissonner, il va avoir un petit peu peur, il va se coucher en disant "Bouh, si je vois cette dame avec la cape rouge, je vais pas me sentir bien." Bref, c'est sympa, c'est un livre sympa qui se lit bien et de sixième à la troisième, on peut y aller, on passe un bon moment. Voilà. Donc une réussite pour Cassidy Blake, pardon. Pour moi, le tome 1 seulement, mais si on en veut plus, il y en a au moins un deuxième.
Ils pourront en faire un dessin animé, hein, parce que vu le dessin la page, ça donne envie de.
Il y a un petit côté manga sur la couverture. Je pensais ouvrir pas un roman, mais un manga. Bon, c'est un roman.
Ah, tu es déçue.
Pas du tout. Ah. Non, non, c'était très bien que ce soit un roman, bonne surprise, mais je pense que.
Vous voulez des
c'est
BD
bien
pour
vu de la part
lire.
De.
On la connaît, Pauline.
C'est bien vu de la part de l'éditeur d'avoir fait une couverture de ce style, parce que ça va attirer des lecteurs. Ouais, ado.
Alors, juste pour info, Victoria Elisabeth vit à Nashville, en Tennessee, mais elle passe en moyenne 2 à 3 mois par an en France, où ses parents habitent dans la région des Pays de la Loire.
D'où Édimbourg ?
Oui, on comprend mieux l'histoire.
C'est ça. Ouh, je continue à frissonner, car nous allons parler de Strangulation avec Marlène, l'assassin du marais de Catherine Cuenca, une auteure française née en 1982 à Lyon, en France. Écrivaine, autrice de romans historiques pour la jeunesse. Donc, elle a commencé à écrire très jeune, un premier roman en 2001, La marraine de guerre au livre de poche jeunesse, que quelqu'un a peut-être lu, je ne sais pas. Oui, Pauline,
tu l'as lu ? Oui, c'est un gros succès chez les ados qui sont en troisième.
Ok. elle était quelques années bibliothécaire et depuis 2010, elle exerce le métier d'écrivain à temps plein. Elle a remporté 3 fois le prix du roman historique jeunesse de Blois avec ses romans Sœurs de guerre. Frères de guerre et la guerre des ombres, et le prix Dumouchou West France 2013 pour le premier tome de sa trilogie Le mystère de la tête d'or. Et enfin, ses romans, Celle qui voulait conduire le tram et sauver Mina, sont sélectionnés pour le prix des Incorruptibles 2019 et 2023.
C'est le nom du prix qu'elle a eu ? Redis-le.
West France.
Dis-moi tout, West France 2013.
D'accord, parce que tu l'as dit tout attaché, c'était assez
hilarant. Oui, et je crois que je n'ai même pas dit dis-moi tout. Non, j'ai dû dire autre chose.
Le Vanuatu. T'as parlé breton, je pense.
Oui, oui, c'est ça.
J'ai parlé breton.
Je crois que t'as dit quel bel après-midi pluvieux.
Laissez parler Marlène, s'il vous plaît, mademoiselle.
Voilà, c'est pas une belle après-midi pluvieuse. Hein.
Ah non, non, non.
Pour Renal Marais, c'est toujours très gai.
C'est ça. Oui, bah alors effectivement, vu tous les prix qu'elle a, je suis pas étonnée. C'est très bien écrit, ça se lit super vite. Hein. On n'a pas envie de lâcher. Voilà, je me suis pris au jeu tout de suite. Alors bien entendu, il y a tous les codes des romans à frissons ou polar, plutôt policiers, parce que du coup, on est un petit peu dans le frisson, mais surtout dans le polar. Voilà, donc alors, c'est à la fois un roman historique. Et c'est un côté qui m'a bien plu parce qu'en fait, du coup, ça remet en lumière le combat pour l'égalité des sexes en France. Donc, on est en 1849 et il y a quand même le positionnement de certaines figures emblématiques de femmes. Donc, Jeanne de Rouen, Désirée Gay, Eugénie Niboyer, Jenny de Nicourt. Alors, c'est peut-être des noms qu'on a oubliés, mais ce sont quand même les premières femmes qui se sont battues pour le droit de vote, pour le droit de se présenter aux élections françaises au même titre que les hommes. Et donc, dans ce roman, il y a toute une intrigue autour de ces femmes-là, sachant qu'il y a aussi George Sand qui est cité, notamment, mais qui, dans ce roman-là, est considéré comme, comme un peu la traîtresse de ce groupe féministe, puisqu'en fait, au départ, elle leur donne leur aval, et à la fin, elle estime que non, le positionnement des femmes doit rester non émancipé, près d'un mari, voilà.
Normal, quoi.
Voilà. Donc, du coup, pour l'époque...
pour l'époque, pardon, voilà. J'avais pas précisé.
Du coup, voilà, donc on a une partie historique. Et autour de ce combat et du coup de la description de certains événements historiques qui ont réellement existé, hein, voilà les clubs de femmes qui ont été ouverts puis qui ont été refermés, les premiers journaux féministes qui ont été créés, qui ont été interdits, qui se sont faits dans toute l'illégalité possible, enfin voilà. Donc tout autour de ce combat-là et des événements historiques, on retrouve une première héroïne qui s'appelle Julie Popelier. Moi, déjà, j'adore le petit nom. Ça fait très
précisien,
c'est tout mignon. Voilà, donc, qui se débat dans ce Paris du milieu du 19e siècle et qui, elle, du coup, a la chance de s'en sortir différemment que d'autres femmes et qui a fui la ruralité, enfin, son milieu familial d'origine pour monter à Paris et pour surtout éviter d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas, qu'elle n'avait pas envie d'épouser, parce qu'on lui demandait l'épouser pour que ses parents puissent agrandir les terres agricoles, voilà, comme ça se faisait beaucoup à l'époque.
Oui.
Voilà. Donc, elle se retrouve à Paris et elle tombe finalement, par chance, sous un petit peu sous l'amitié d'une de ces dames assez féministes qui va l'aider à trouver un travail. Et donc, elle va travailler dans une mercerie. Alors, elle s'éclate pas, mais bon, voilà. Elle travaille à la belle mercerie et au moins, elle a pas fini prostituée comme beaucoup d'autres, ou dans les maisons autorisées, voilà. Donc voilà, ça c'est l'héroïne qui du coup se positionne comme ça au milieu de ce mouvement historique et qui sait pas trop ce qui va se passer. Et en même temps, on se retrouve avec un assassin qui rôde dans Paris et qui égorge les femmes qui ont plus ou moins attrait à ces groupes féministes. Donc l'intrigue commence à se nouer autour de ça. Et cette Julie-là, elle va se retrouver à mener l'enquête parce que sa collègue et amie de travail a disparu et qu'elle veut savoir pourquoi. Et bien entendu, c'est une des femmes qui a été égorgée et voilà. Mmh. Et donc, elle va commencer à mener l'enquête. Alors, son enquête l'amène à faire la rencontre de plusieurs hommes. des hommes qui sont du coup pour l'époque très anti-féministes et qui veulent recadrer les femmes. Voilà. Donc il y a notamment un journaliste qui travaille pour le Charivari, donc pareil, Charivari, qui est sorti à cette époque-là, qui était totalement, comment dire, du côté de Monsieur Proudhon, qui se présentait aux élections et que donc qui était anti-mouvement féministe. Voilà, donc on rencontre ce journaliste-là, on rencontre des enquêteurs, des policiers qui, bien entendu, bon, pareil. Bon, ben, enquêter sur des femmes qui, oh, ben, certainement qu'elles avaient quelques vices, qu'elles ont trompé leur mari, qu'elles ont voulu divorcer, donc bon, ma foi, hein, c'est pas bien grave si elles ont disparu. Voilà. Sauf un, donc, je sais même plus comment il s'appelle, ce cher monsieur. Je l'ai noté.
On veut savoir, hein.
Si, Delage. Alexandre Delage. Donc voilà, un jeune policier qui, lui, va apporter son aide et qui va, voilà, essayer de trouver l'assassin du mari. Bon, voilà. Donc, on a les codes, on a un roman historique, on a cet assassin, on sait pas trop ce que c'est. Alors, en même temps, ça m'a fait penser un peu à Jack l'Éventreur, mais côté
oui,
du coup parisien.
Ouais.
Voilà. Mmh. En même temps, il y a tout ce contexte, historique, donc, qui donne, ça donne un petit côté un peu plus sympa à ce roman, quoi. Du coup, on se dit, ouais, c'est pas juste un autre polar pour un autre polar.
Il y a
des faits historiques.
De substance,
ouais.
Il y a des personnages qui ont existé ou...
Ah oui, parce que du coup, Jeanne de Rouen et Désiré Gay sont dans le livre. Alors bon, elles sont imagées dans le livre, mais elles ont réellement existé. Elles étaient les meneuses de ces groupes, effectivement, féministes. Donc, totalement, il y a des faits et ils relatent des événements comment on appelle ça, de... pas de conférence comme on aurait dit avant, mais où du coup il y avait un regroupement féministe pour expliquer pourquoi je veux me présenter,
des
etc.
Des réunions.
Il y avait des clubs et tout ça, et ça a réellement existé. C'était
d'accord.
Vraiment des faits. Enfin, c'est basé.
Les meurtres n'ont pas existé par contre. C'est la fiction
non.
Qui est
voilà,
amenée.
Voilà, ça c'est totalement
l'aspect historique. Okay.
Voilà, tout à fait. Et mais pour répondre aussi du coup au côté fais-moi peur, outre cette intrigue là, etc. On rencontre un autre personnage féminin qui s'appelle Sidonie, qui est elle aussi dans Sidonie, Léa pardon, qui est elle aussi dans les groupes féministes. Non, Sidonie c'est celle qui est morte, c'est sa copine. qui du coup elle est considérée comme non fréquentable puisqu'elle a osé divorcer de son mari, voilà, et que ça se fait pas, qu'elle était bourgeoise en plus, donc ça se fait pas. Enfin bon, voilà. Et cette Léa, eh bien, elle est spirite. Mmh. Et donc, en fait, elle arrive à parler avec les femmes qui sont mortes. Et elle mène des séances de spiritisme pour qu'elles arrivent à savoir « Mais qui vous a tué, bon sang de bonsoir ?» Voilà. Donc, c'est ce petit côté aussi « Fais-moi peur » qui a été rajouté avec ça, là.
Tu m'étonnes.
Voilà, que j'ai une petite touche de frisson qui était... Bah, ma foi... ça va bien. Dans l'ensemble du roman, ça va bien. On a envie de savoir, c'est bien, c'est... Voilà. Donc, je vais bien entendu pas vous dire la fin.
Mais non, et c'est pas trop effrayant, ce côté, justement, spirit qui vient s'immiscer, parce que avoir peur du monstre, du machin, c'est une chose, mais de l'esprit, tu vois, l'esprit des femmes qui sont torturées, c'est pour ça qu'il y a l'esprit qui rôde, parce que tant qu'elles sont pas vengées, qu'on n'a pas dit qui... Enfin, c'est des études très effrayantes.
Voilà. Alors... honnêtement, dans l'ouvrage, je pense que ça peut effrayer. Quand, voilà, c'est des choses. Moi, le spiritisme et tout, ça, voilà, selon comment c'est abordé, ça peut le faire. Bon, quand on est dans les passages qui décrivent, ça fait un petit peu bizarre, mais surtout que, enfin voilà, il y a tout un passage où, je sais pas du coup si on a des minutes pour lire ou pas.
oui, on a des minutes. Oui.
C'était justement la séance de spiritisme, enfin sa première séance de spiritisme qu'elle fait et qu'elle fait avec des témoins pour que tout le monde voit qu'elle ne triche pas, que c'est pas faux, que ça n'a pas été fomenté par les femmes. Enfin, c'est pas... Donc, il y a le journaliste et il y a le policier qui sont là et qui observent la scène, quoi. Et du coup, en fait, comme il ne se passe rien, là, Léa Caron, elle ferme les yeux, mais tout le monde regarde et il ne se passe rien, tout le monde retient son souffle, on en est là, en fait. Et donc, le journaliste, il dit ça. « Décevant, lâche-t-il, n'est-ce pas, inspecteur ? Chut ! Le policier cligne des yeux, le petit tabouret a-t-il bougé ? Ou est-il le jouet d'une illusion ? Gustave Petitjean, le journaliste, pousse une exclamation étouffée. L'un des pieds lévite à un bon centimètre de la surface de la table. L'objet retombe dans un bruit sourd, puis s'élève et retombe de nouveau avant de recommencer. Les coups saccadés s'enchaînent sous le regard fasciné de Julie et de Désirée, les yeux clos, Léa Caron semble méditer sur l'origine des sons. Au bout de 10 coups, le tabouret marque une légère pause. Penchée sur son secrétaire, Antoinette se met à écrire. « 10, c'est un J !» chuchote-t-elle, tandis que le trépied reprend sa valse sur la table. « 5 coups pour E, pense Alexandre, puis 19 pour S. « Je suis... » marmonne Antoinette, toujours penchée sur son livre. « Je suis là !» conclut Léa Caron. Voilà.
Je suis nu. Il y a un bon rythme.
Ouais, alors le rythme saccadé, je ne vous dis pas ce que Ludo mimait parce que
pas du tout.
C'est pour la prochaine émission.
Je ne mimais absolument rien. Non, mais Valérie, s'il te plaît.
Non, mais tu imaginais le trépied, tu montrais comme ça, bringue-ballant. C'est tout. C'était pour illustrer, je comprends. Mm.
Donc voilà. Résultat, quel âge frissonné
Grands ados, jeunes adultes, quand même. Hein.
Ah d'accord, c'est grand.
Parce que, ouais. Bon, même si on en a discuté avant l'émission, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui sont plus habitués à voir des choses effrayantes que ce que nous, on pouvait voir ou entendre à leur âge. Ceci dit, quand même, je le donnerai pas un sixième tout de suite, en fait.
Toi, voilà. Tu as frissonné ?
Ah, j'ai eu des petits moments, je me suis dit, ah, sympa quand même. Mais pas autant que d'autres que j'ai pu lire, quoi. Mais non, c'est très intéressant.
C'est surprenant, c'est les couvertures, tant de Cassidy Blake que L'Assassin du Marais, c'est que c'est des couvertures qui font presque enfant.
Oui.
Par rapport à des livres qui peuvent faire peur, vu les sujets que vous évoquez, quand même, avec les morts, les esprits, qui est dans le thème de l'horreur, mais c'est du frisson, mais du... C'est pas juste où il y a un monstre et le monstre, le méchant, il meurt à la fin. Enfin, ouais.
Cassidy Blake, là, on regarde la couverture, c'est hyper coloré. On se dirait presque, ça va être une petite aventure de chasse un peu presque joyeuse.
C'est ce que je me suis dit en voyant le.
Et il y a les mêmes coloris, c'est marrant, sur L'Assassin du Marais.
Tu t'imagines qu'il va y avoir un petit chat qui va parler, mais qui va lui expliquer le bien et le mal. Oui. Et puis tu vas rentrer manger une apple pie après à la maison.
Tout à fait.
N'importe quoi.
Mais c'est ça, ces couleurs, elles veulent dire ça.
Puis tu t'attends pas forcément à ça, parce qu'effectivement, tu te dis, bon, moi, plutôt polar, plutôt un peu, mais effectivement...
Puis même la partie historique dans le tien, Marlène.
Alors que là, tu mets une bonne femme égorgée en première couverture, mais tu ne vends pas. Tu vends pas le livre, c'est clair, mais tu ne vends pas.
Oui, mais tu décris bien ce qu'il va y avoir dedans.
Et ouais. On n'a pas parlé des maisons d'édition. Pauline, c'était qui pour Cassidy ?
C'est Lumen que je ne... Je connaissais pas.
Non, moi je ne connais pas non plus. Si je connais quelqu'un au Rude Boy Crew qui s'appelle Lumen, mais ça n'a aucun rapport.
Peut-être c'est lui, c'est peut-être sa maison d'édition, on ne sait pas.
Et pour L'Assassin, c'est Scrineo.
Ok, merci.
Tu connais quelqu'un qui s'appelle Scrineo?
Non, pas du tout. Non. Une question, qui a choisi les livres?
Moi, celui-là, c'est moi qui me le suis choisi, j'avoue.
D'accord, et mes livres, qui les a choisis?
Le hasard.
Non, je crois que c'est Valérie, car à la lecture de mon premier livre, je me suis demandé si le thème n'était pas l'érotisme ou le spiritisme, non, pour faire écho à ton compliqué. Livre, Marlène.
Ça, c'est souvent lié, finalement.
Oui, c'est ça.
Ça peut être
c'est un peu
lié,
le démon qui nous possède quand on a des envies d'érotisme.
Quelques pages d'érotisme de ce livre, bon bref.
Non, mais Ludo, on n'a pas le temps de s'expliquer pourquoi...
C'est vrai.
Parce que vous conviendra, chers auditeurs.
Loudun de Hervé Ruzic, David Furneaux et Paolo Armitano, cette bande dessinée historique sur Loudun, ville protestante en Touraine. Alors l'histoire en gros de cette ville en 1632, histoire vraie, alors que Richelieu tient la France d'une main de fer, le diable et ses cohortes infernales décident de prendre possession du couvent de la petite ville de Loudun. Apparitions, spectres et possessions sont désormais le lot quotidien des résidentes du couvent. Mais qui a amené le diable au sein du couvent? Ça ce n'est rien, cette première image, Valérie. Il y a bien pire après.
Je pensais que l'hostie, il fallait le manger avec la bouche, pas avec ses seins.
Voilà, c'est ça. Mais parce que, il faut trouver un coupable. Et justement, ce sera le prêtre Urbain Grandier, qui est aimé de la population pour avoir aidé les habitants pendant la peste noire. Mais peu aimé de Richelieu pour s'être opposé à lui, qui souhaitait détruire le donjon de la ville et d'autres bâtiments peu après l'édite d'Alès, Urbain Grandier, qui était contre le célibat des prêtres, qu'il a mis en pratique d'ailleurs auprès de la bourgeoisie de Loudun, causant quelques jalousies. Il a d'ailleurs mis enceinte la fille du procureur du roi, s'est ensuite marié avec Madeleine de Broux, défiant l'église catholique. Alors on l'a mis en prison avant de le relaxer et qu'il revienne triomphant erreur fatale à l'Audin. Alors tout ça, c'est l'histoire avec un grand H. On ne retrouve pas tout dans cette bande dessinée, mais en bonus, il y a un dossier de 8 pages couleurs supplémentaires sur l'Audin, sa malédiction et sur ce prêtre Urbain Grandier. Nous, dans cette bande dessinée, on va surtout s'atteler aux exorcismes érotiques, à ses demandes auprès de Richelieu de le faire interner, qu'on le suspecte d'avoir fait un pacte avec le diable, puis le simulacre de procès et la sentence qui en a suivi. Donc à la fin, personne ne saura dire lequel de l'ange ou le démon triompha, tant la justice de Dieu fut proche de celle du diable. Oulala. Ce n'est pas de moi. Mais c'est très beau, c'est pour ça que j'ai gardé cette phrase. À la fin, donc, on explique la vraie histoire. Côté dessin, on retrouve des couleurs très prononcées, donc je ne sais pas
quelle est. C'est très démoniaque. Hein.
C'est très démoniaque, c'est très rouge ou très bleu pâle, en fait, c'est des couleurs assez...
Ça fait penser aux peintures à l'huile.
Assez, vous voyez, voilà, très, complètement, assez pâle, assez... ce qui est intéressant à la fin, c'est savoir que l'histoire est vraie, se plonger dans l'histoire de ce prêtre et de ces exorcismes de l'Audin qui ont fait beaucoup parler d'eux à travers les époques. On en parle encore aujourd'hui, il y a des blogs qui existent. Donc on comprend un peu ou prou que ces exorcismes, ils n'ont certainement pas vraiment existé, que ce diable... ça arrangeait bien Richelieu au moment de la guerre des protestants et des catholiques de trouver un coupable, de le montrer en place publique, en plus un coupable qui était aimé de la population, pour servir d'exemple. Le procès est terrible, la sentence l'est tout autant, la sentence est véridique. Donc c'est un livre plus de 18,
pour clairement. Sûr, ouais. Oui, juste, je vois là.
Pour sûr,
mais c'est violent, rien que dans les images, c'est pas que violent.
Voilà, c'est les exorcismes, c'est l'exorciste, on est complètement dans le film. Mm-hmm. À l'époque, 2600 et quelques. Ça fait pas vraiment frissonner.
Parce que t'es pas une fille, je crois, parce que quand tu vois la pauvre jeune femme, ce qui lui arrive...
C'est possible. Non, c'est plus gore que frissonnant, si tu veux. Ouais. Voilà, c'est plus dans le sens... Oh ouais, tu vois, expression un petit peu d'onomatopée pour conclure cette chronique.
On n'est pas à la radio.
Ça va, mais c'est pour ça qu'on se sert d'onomatopée. Et c'est une collection que je ne connais pas non plus, c'est la collection Hanté. Voilà, et j'en ai un autre, je crois, de cette même collection, il me semble, la collection Hanté, j'en ai un second.
Mais c'est Soleil.
Soleil. Oui, mais c'est la collection Hanté de chez Soleil.
Et Soleil, je ne connais pas.
Ça fait 49 fois qu'on en parle.
Je te jure, j'en ai jamais entendu parler.
J'aurais dit 51, moi.
Mais la fois où il était enrhumé, je pense.
Si c'est comme ça, je fais une pause musicale et tu ne feras pas ta chronique. Ça tombe bien, c'est 7h30. En plus, on parle de diable. Alors, on va écouter une chanson de Robert Johnson, ce grand bluesman qui a pris la guitare avec le diable, paraît-il.
I sent for my baby and she don't come. I sent for my baby and she don't come. All the doctors in hot springs, she can't help her no. And if she gets unrooted, things she don't want to. Gets unruly and thinks she don't want it. Take my 3229, cut her hair in two. She got a 30 special, but I believe it's most too light. She got a 30 special, but I believe it's most too light. I got a 3220, got to make the counts all right. I sent for my baby man and she don't come. I sent for my baby man and she don't come. All the doctors and hot springs sure can't help her no. I'm gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. I'm gonna shoot my pistol, got to shoot my Gatling gun. You made me love you, now your man have come. Oh, baby, why you stay last night? Ah, baby, why you stay last night? You got your hair all tangled and you ain't talking right. A very special voice, it do very well. special boys that do very well. I got a 3229, it's a burning. If I sent for my baby, man, and she don't cook. If I sent for my baby, man, and she don't cook. All the doctors in West Country sure can't help her, no. Hey, hey, baby, why you stay last night? Hey, hey, baby, why you stay last night? You didn't come home until the sun was shining bright. Ah, boy, I just can't take my rest. Ah, boy, I just can't take my rest. With this 3220 laying up and down my breath.
Allez, on est reparti. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie Trémoulière? Qu'est-ce
mais
que tu
rien,
veux dire?
Rien, rien. J'ai besoin qu'on parle de Lovecraft. Là, on parle d'horreur. De
eh ben, ça tombe bien.
Et jamais on en parle.
Parce qu'on va parler des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gou Tanabe, qui est un mangaka. J'ai appris cette définition, le mangaka.
C'est pour ça que je t'ai mis entre parenthèses pour que
ah, je sais, je connais pas Soleil, je connais mangaka. Pas mangaka. Nul, cet homme, virez-le. Il est né
non,
en
75. Non, il y a
75.
Que lui qui sait se servir de la console son.
Eh oui, c'est vrai. Je suis technicien aussi. J'avais oublié.
Qui fait des super intros aussi.
Et qui fait des super intros. Alors, il est né en Tokyo, dans la région de Kanto, non, en Gotanabe, qui se dit en fait Gou Tanabe en japonais, et qui s'est fait connaître en France grâce à ses adaptations d'œuvres littéraires de Lovecraft. Ce qui tombe bien parce que tu viens de nous en parler, Valérie.
Non, mais c'est juste incroyable ce que tu viens de dire. J'avais envie d'en parler, et là, boum,
et ouais,
tu
et l'autorises. Bim, ça arrive.
Fabuleux. Je pourrais pas parler de ce coffret en entier parce que sinon je spoilerais.
Ah oui, d'horreur. Tu me laisses le mien.
Je te laisse ton tien, mais je vais te laisser les autres. En fait, Gou Tanabe, c'est Gou le prénom et Tanabe le nom de famille, parce que tel que tu le dis, t'as l'impression qu'il s'appelle Gou Tanabe.
Ouais, j'ai des problèmes ce soir.
Non, mais c'est pas
je
ça.
Lis les mots.
C'est ça. Mais les mots te mangent.
Oui.
Et il a sorti, qui est pour moi une collection absolument magnifique. C'est un coffret avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc L'horreur de nuit, La montagne, Cauchemar d'Innsmouth et L'appel de Cthulhu. Cthulhu qui est quand même le livre référence, la base, les fondations, les piliers de ce que peut être l'horreur à la Lovecraft. Et sachant que Lovecraft, tu vas me faire une bio ou pas sur Lovecraft?
Non, je l'ai préparé pour Pauline.
Donc je dis rien. Disons que sa vie a été assez courte et le fait qu'il nous laisse autant de choses, c'est juste extraordinaire. Donc j'en arrête là pour Lovecraft, puisque tu vas le préparer pour Pauline, vu que tu ne prépares jamais rien pour moi. Mais ce n'est
si,
pas grave,
si, je peux te parler de la vie de Gou Tanabe, si tu veux.
Oui, mais je crois qu'on s'en fout, il est jeune, il n'a pas eu le temps de vivre grand-chose.
Il est 75 ans, c'est
oui,
presque
donc
ton
jeune.
Âge.
Ah oui, donc jeune, c'est ce que je dis. Non, mais voilà, c'est un super mangaka japonais qui est fan aussi de science-fiction et qui a su mettre en exergue l'œuvre de Lovecraft. Et en fait, là, il a fait un coffret avec tous les mangas qu'il a mis en manga, ses nouvelles ou ses œuvres, sur des tailles déjà de livres un peu à part, avec des couvertures qu'on dirait un cuir d'animaux dont on ne sait l'origine.
On dirait un carnet de croquis un peu,
oui.
C'est marrant.
Et t'arrives carrément, pas à lire, ouais. Essayez de lire le quatrième de couverture. Non, à l'inverse, c'est un manga.
Oui,
mais... et voilà. Et donc là, moi, j'ai récupéré deux du coffret de 7. Donc en plus, j'ai pris les plus foncés, qui est le cauchemar d'Innsmouth. Alors pareil, il y a un gros débat chez les amateurs de Lovecraft pour savoir comment ça se prononce. Donc moi, pour moi, ce sera le cauchemar d'Innsmouth. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Robert Olmsted qui arrive donc sur cette île. Où il va essayer d'aller. Il est en train de terminer ses études. C'est un jeune érudit. Et puis, il a envie d'aller un peu prendre ses vacances pour aller à la quête de ses origines. Jusque-là, tout va bien. Et puis, bon, comme tout étudiant qui se respecte, il est un peu fauché. Donc, pour pouvoir aller se rendre dans la ville de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Newburysport. Enfin, c'est pas grave, puisque de toute façon, il n'y arrivera pas. Il peut pas prendre le train parce que c'est trop cher. Donc on lui dit, mais si tu veux, tu peux prendre le bus. Il y en a un par jour. Mais on te le déconseille parce qu'il passe par Innsmouth. Et cette ville, en fait, elle est réputée comme étant hantée, enfin, habitée par des personnages au visage difforme. Mais en même temps, ces personnages-là, ces humains-là qui habitent, ils les rencontrent parce que c'est un des gens d'Innsmouth qui conduit le bus Taco. qui va venir, on est début 1901, qui va venir le récupérer pour l'amener dans son périple jusque ses origines. Et lui, il dit, bah, attends, j'ai pas le choix. Puis il est curieux parce que, comme par hasard, il étudie un peu l'anthropologie, tout ça. Il est curieux d'aller découvrir cette ville. D'autant plus qu'il a vu dans un musée une collection de tiares, enfin de bijoux, qui provenaient de cette ville. Donc, avec des dimensions qu'il n'arrivait pas à s'expliquer. Et donc, il le voilà parti dans ce taco pour arriver à la ville d'Innsmouth. Et là, il va découvrir, il va être comme attiré par un rocher dans l'eau qui est appelé le rocher du diable. Donc, il résiste à pas aller vers là-bas. Il va rencontrer des gens, entre guillemets, ordinaires. Et il va être attiré de plus en plus par ce qui se passe dans cette ville, qui est totalement à l'abandon et en fait qui a la réputation hors ville, en fait, d'avoir été abandonnée à cause de maladies type grippe aviaire, grippe espagnole, Covid, enfin des choses comme ça, anciennes. Et du coup, le trait qu'a mis Gutanabe pour dessiner son manga, mais littéralement la trouille, parce que c'est dans le regard du jeune qui va découvrir cette ville, rien que son regard à lui fait peur. Et comme ça se passe beaucoup la nuit, on voit les ombres, on voit des silhouettes. En fait, il y a tous les codes de ce qui fait peur. Les choses abandonnées, les mystères, des humains, mais on sent qu'il y a un mystère derrière, quelque chose de surnaturel qui l'appelle lui. Et en fait, il va en apprendre beaucoup. Alors, à la Lovecraft, on sait déjà un petit peu, dès le départ, la femme. Je ne sais pas si toi, Pauline, tu l'as ressenti dans...
Oui.
Voilà. Mais il n'empêche qu'on se dit, bon, ça va, je sais la fin, mais malgré tout...
Wow. Le chemin.
Voilà, il peut se passer plein de choses.
Le chemin est long.
Et moi, ce que j'ai adoré, bon, mais après, c'est parce que c'est du Lovecraft, c'est qu'à un moment donné, quand même, on voit Chulu. Contrairement à ceux qui disent qu'on ne connaît pas Chulu, si on sait à quoi il ressemble. Mais voilà, on est en pleine... Alors, oui, c'est de la science-fiction. Oui, on sait que dans la vraie vie, ça n'existe pas, que tu n'as pas besoin de regarder sous ton lit tous les soirs. Il n'y a pas de monstre. Mais malgré tout, là, ça fait appel à un imaginaire, mais qui est... Sur des mélanges génétiques, sur plein de choses.
C'est son truc, en fait. Hein.
Mais oui, ça qui est génial chez lui. Et c'est fabuleux, parce que quand tu vois... Enfin, Ludo dira à quel âge il est mort, tout ça, afin d'avoir été aussi prolifique entre 6 ans et 46 ans. C'est énorme d'avoir pu...
47 ans.
Oui, mais la dernière année, il m'a dit qu'il n'avait pas écrit.
C'est possible.
Comme s'il est venu me le dire. Enfin voilà. Et c'est totalement effrayant parce que. Alors, je me dis peut-être des ados liraient ça. Et quand on parlait de génération, de ce qui nous faisait peur et ce qui leur fait peur à eux, je ne suis pas sûre qu'ils captent. Peut-être ils trouveraient ça limite pas grossier, mais.
J'allais dire grotesque hein, dans ma chronique.
Ouais.
J'avais prévu de dire un peu. Grotesque sans que ce soit négatif, oui. Mais oui,
mais c'est ça, c'est Lovecraft. Ouais. Mais ça fait appel à nous, avec nos yeux plus vieux, quand même à des peurs, vraiment qui font que si tu te réveilles la nuit, tu y penses quand même une seconde avant de te rendormir. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est une grande réussite parce que c'est bon, il y a les romans qui font peur, il y a les Stephen King, les machins. Ouais. T'as Lovecraft, si tu le masque de Chulu, ça fait peur. Mais là, j'ai trouvé que le dessin dans ce coffret, il est particulièrement bien fait.
Ouais. Alors, c'est du noir et blanc. Hein.
Oui, c'est de là, non. C'est du noir et blanc. Mais sur. Alors, je sais plus lequel
Marlène
c'est.
Marlène me montre des.
Non, mais ça fait des pointillés. Enfin, c'est comme du pointillisme noir et blanc, en fait.
Et puis, là où le manga est plus blanc que noir, là, il est plus noir que blanc.
Sauf pour lui. Enfin, ouais. Sauf sur son visage à lui.
Je crois que c'est sur les montagnes hallucinées dans ce coffret de 7 livres où il a. Parce que comme il y a une histoire de couleurs. Dans l'histoire, enfin, il l'a fait avec des tons violets, mais c'est toujours ce même trait, un peu en creux de Chine.
Il a repris toutes les adaptations littéraires de Lovecraft.
Non, pas tout Chulu. Ouais, il y a juste l'appel de Cthulhu.
Juste une anecdote concernant Gautanabe. En automne 2005, en pleine période sombre, où il était peu ou prou connu, pas connu, enfin où il galérait, il cherche des histoires de monstres sans issue positive et son éditeur lui présente le mythe de Cthulhu, que tu disais, de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft. Et il est impressionné par les personnages qui, selon ses dires, perdent alors tout espoir et appétit de vivre. C'est ce point commun au récit de Lovecraft qui m'a particulièrement marqué, a-t-il raconté.
Oui, mais c'est ce que tu ressens dans tous les livres de Lovecraft. Il y a quand même ce côté saute par la fenêtre. C'est pas gai, mais c'est pas non plus... les personnages ramassent.
Enfin, oui.
Je sais pas si c'est le bon terme, mais les personnages je souffre à un moment donné. Moi, mon personnage, au début, il était super... en pleine forme, et bon, vu que tu le sais, la page 1, on a le droit de le dire, tu sais qu'il va psychologiquement être totalement renversé après.
Il me semble qu'il a repris dans l'abîme du temps de Lovecraft cette année ou l'année dernière.
Je croyais que le dernier, c'était Innsmouth, mais peut-être.
Ouais, je sais pas, je ne suis pas sûr.
C'est possible.
D'après mes notes, mais je n'ai
si
pas de date.
Si tu as regardé Wikipédia, peut-être c'est pas à jour.
Peut-être bien.
Peut-être que oui. Mais dans le même coffret, si tu veux dire, dans la même édition des trésors Lovecraftiens.
Je n'ai pas bien fait mon travail.
Tu n'es donc pas l'homme de Providence.
Non, c'est ça. Ok, merci beaucoup Valérie.
Mais avec grand plaisir.
Pour ces seuls livres que tu as présentés pour cette émission.
Non, j'en ai d'autres, mais tu me laisses la parole. Tu veux pas savoir que c'est chez Kiun?
Chez Soleil?
Non, chez qui? C'est chez Kiun.
Ah, je connais pas.
Qui édite du manga.
On en a déjà parlé, Pauline.
Non,
on
n'a pas
parlé.
La semaine dernière, on en a parlé.
Tu parles manga.
Non, on n'en a pas parlé. Never.
Je pense que 80%, allez, 90% des mangas sont...
On ne parle jamais de manga dans cette émission.
Non, pas la semaine dernière.
Pauline, justement, tu as lu un Lovecraft pour cette émission.
Alors oui, et si j'avais su que Valérie avait lu du Lovecraft pour cette émission, on
en
aurait discuté.
Oui, mais tu l'aurais lu quand même.
Oui, je l'aurais lu quand même, mais finalement, voilà, on aurait pu parler un peu des résonances de nos deux bouquins, parce que
Est-ce que tu es en train de dire que Valérie ne donne ses livres qu'une heure avant l'émission?
Non, en fait, je t'accusais, toi. Mais finalement, j'ai feuilleté en deux secondes là les mangas que Valérie nous donne, et ce dont je me rends compte, c'est que Lovecraft, c'est pas juste des romans les uns après les autres ou des nouvelles qui sont chacune dans leur coin, c'est que c'est carrément toute une mythologie, c'est un univers, c'est une remise en question des humains. Je suis pas sûre qu'il aimait beaucoup les hommes, enfin en tout cas
donc qu'il était métamorphosé.
Ouais, voilà. Et puis qu'il était très convaincu de la légitimité de notre place sur Terre.
Il parle de cosmos. C'est ce qu'on dit de lui, en fait.
Voilà,
ils disent, voilà.
Ouais,
se réfère à la notion d'horreur cosmique selon laquelle l'être humain est insignifiant à l'échelle du cosmos qui lui est profondément étranger.
Ah bah voilà. Bah alors là, voilà. Ça y est. Bah, tu confirmes ce que j'ai ressenti dans mon livre. C'est que... on n'a pas vraiment notre place ici, ou en tout cas, on n'est pas le centre du monde. Il faut arrêter de dire ça. Bon, quand je vais vous raconter mon livre, vous allez dire, mais d'où elle sort ça? Mais oui, si, c'est le thème du livre. Le thème de mon livre, c'est on est à Dunwich, un petit village un peu comme celui que tu as décrit. Alors moi, quand j'ai lu la description du village, pour ceux qui ont vu Massacre à la tronçonneuse, on dirait la maison de la famille de Massacre à la tronçonneuse. De Massacre à la tronçonneuse, mais en grand. Donc, où il y a. Alors, sa façon de décrire. Donc, c'est un village avec beaucoup de consanguinité. Et donc, là, je le cite, les mots ne sont pas de moi. On voit très loin dans la dégénérescence, avec des stigmates physiques et mentaux, un village dont on se tient éloigné. Enfin, aujourd'hui, tu ne pourrais plus écrire ça. Il a une description de ce village où voilà, il y a une très grosse consanguinité qui fait que l'ambiance est très bizarre. Il se passe, voilà, il y a de l'inceste, il y a de... Enfin bon, ça a l'air super...
D'où la consanguinité.
Voilà, forcément. Bref, un village dont on se tient éloigné. Et donc là, un jour, Lavinia, une maman albinos, met au monde un enfant qui va au-delà de ce qui était déjà présent dans le village, qui était quand même un peu louche. un enfant au corps humain, hein, qui a l'air tout à fait d'un humain, mais dont le corps et l'esprit vont grandir beaucoup plus vite que la moyenne, c'est-à-dire que, alors je ne sais plus les âges exactement, mais on va dire qu'à 4 ans, il sait lire, à 6, il s'exprime, même si son langage est celui d'un trou perdu de la Nouvelle-Angleterre, le contenu de ses paroles, on sent qu'il est lettré, qu'il a étudié les livres de son grand-père, qui sont des livres un peu louches d'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qu'il contient, mais c'est très bizarre, des graphiques, des dessins, bref. Donc c'est Wilbur qui naît dans ce village, donc qui, même dans ce village, est bizarre et est assez terrifiant. Et à partir du moment où il arrive, donc il naît dans ce village, la famille Whatley, donc sa mère, son père est inconnu, on ne sait pas qui est son père, et son grand-père vont se mettre à acheter énormément de bêtes, mais jamais leur troupeau ne va augmenter en nombre. Qu'advient-il de ces bêtes? On ne saura pas, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette maison? Bref, ils achètent beaucoup d'animaux, ils détruisent toutes les parois de leur maison. Bref, il se passe quelque chose. Donc, on a Wilbur qui grandit là, à une vitesse folle. Et bref, il semblerait qu'il y ait quelque chose de bizarre dans cette maison. Tout le début, c'est un petit livre, hein, ça fait une centaine de pages, on va dire pendant les 50 premières pages, Lovecraft nous prévient qu'il va y avoir une nuit d'horreur. Mm-hmm. Une nuit d'horreur, et donc on se prépare. Et là, j'ai ressenti ce dont certaines personnes m'avaient parlé, c'est que cette nuit d'horreur, elle arrive, mais finalement, elle est pas, voilà, c'est une petite nuit d'horreur.
Oui, mais parce que tu sais ce qu'il advient du personnage, du héros. C'est peut-être pour ça.
Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment de héros. Il y a ce Wilbur, là, ouais. qui n'est pas celui qui raconte. On voit de loin, on essaye de comprendre qui il est, enfin, ce qu'il est, parce que c'est pas qui il est, mais vraiment ce qu'il est, la question. Et puis alors, il fait des choses bizarres, ce Wilbur. Il semblerait, quand il parle, qu'il soit issu de la campagne profonde, qu'il ait souffert de la consanguinité, mais il va aller consulter des ouvrages, des fonds anciens, des bibliothèques d'Harvard et de je ne sais quoi, le Nécromignon.
Il fait des liens entre chaque livre, c'est génial.
Mais en feuilletant deux secondes de tes livres, j'ai vu déjà qu'il y avait des mots qui résonnaient, et en fait. Là où mes connaissances sont limitées, c'est que je ne sais pas ce qui est de l'univers de Lovecraft propre et de celui de l'ésotérisme en général. Et du coup, d'avoir feuilleté deux secondes ton manga, je me dis, j'aimerais savoir ce qui est sorti de la tête de Lovecraft et ce qui est de l'ésotérisme en général. Et puis, du coup, je vais peut-être conclure là-dessus parce que c'est un livre très court et si je vous dévoile trop, il n'y a aucun intérêt à le lire, mais voilà, on est sur des monstres, on est sur une imagination incroyable. Il y a un moment où un personnage essaye de traduire le journal de Wilbur et il nous explique les méthodes de traduction d'un langage inconnu. Moi, cette partie-là m'a émerveillée, j'ai trouvé ça génial. Il y a un univers autour de ce tout petit livre. Et il y a la description des monstres. Et alors là, tu te dis, mais il faudrait que je dessine petit à petit chaque chose qui me décrit pour pouvoir imaginer le monstre que lui a vu dans sa tête. Parce que clairement, il y a un monstre dans mon livre, quand il le décrit, on sent que lui, il le voit. On sent que Lovecraft l'a vu dans son esprit. Mais alors toi, pour le suivre, il va falloir peut-être que tu le dessines, parce que c'est tellement précis, il va te décrire jusqu'à sa griffe peut-être, ou ce qui coule au bord de sa lèvre, et la couleur et la texture, et enfin, c'est assez étonnant comme lecture, je sais pas si c'est vraiment effrayant, quoique j'ai peut-être sursauté quand il y a eu un ronflement qui a résonné dans ma maison, finalement j'ai eu un petit bond peut-être, donc j'avais peut-être un peu peur, mais en tout cas c'est extrêmement étonnant, c'est assez étonnant comme...
C'est souvent ce qui est dit par rapport au livre de Lovecraft, c'est que tu, pendant que tu le lis, c'est vraiment de la science-fiction, tu le lis. Bon, voilà, ça fait pas peur pendant, mais c'est après.
Oui.
En fait, c'est ça, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est vraiment, je le lis, bon, ça fait peur, tu vois, c'est monstre. Et par contre, tu vas te réveiller dans la nuit juste pour aller faire ton petit pipi et...
Et là, tu vas regarder à gauche, à droite.
Voilà. Est-ce que justement, au bout de la tentacule, machin, et l'odeur, est-ce qu'il n'y a pas...
J'ai vu ça dans ton manga, l'odeur. Ouais, ça, c'est un truc
et
vraiment...
qui est un peu le fil rouge. Enfin, c'est, et ces personnages-là, ils font appel à des choses, je pense, plus... Enfin, c'est pas du tout que je voue une passion pour Lovecraft, mais c'est... je pense qu'il il arrive... Stephen King fait peur. Tu le lis, tu as peur sur le moment...
Je vois ce que tu veux dire. Il s'appuie sur les peurs qu'on peut avoir qui sont ancestrales et qu'on se transmet même de manière inconsciente. Mais vraiment, quoi. Et du coup, c'est là où il a tout gagné, du coup, parce que vu ce que vous dites là et ce que tu décris, c'est vraiment, il a insinué et distillé tout doucement en toi les mécanismes de peur qui ne se déclencheront qu'après. C'est fort,
c'est
ça.
Oui, c'est là où je trouve réside son talent, parce qu'en science-fiction, on aurait pu... Enfin, parce que Lovecraft...
Après, il fait science-fiction, fantastique, horreur. Hein.
Oui.
Pas que de...
Oui, mais il est vite classé sur la SF. Et pour moi, c'est plus insidieux. Il y a quelque chose qui se passe...
En 1900, la SF...
Ouais, mais bon,
oui, mais maintenant, il est classé.
Maintenant, oui.
Voilà, mais il y a un truc qui est sous-jacent chez lui, qui fascine à la fois, qui dérange et qui fait peur. Enfin, pour moi, c'est pas de l'horreur trash, justement.
Non,
parce que quand tu lis, tu dis pas,
j'ai la trouille. Tu dis pas ça.
Mais tu vas y penser longtemps après.
Oui, tu vas y penser.
Tu vas y penser. Et si tu lis d'autres.
Stephen King, dont vous parliez, a dit de lui qu'il était le plus grand artisan du récit classique d'horreur du XXe siècle. Voilà, il était très pelu durant sa vie, ce pauvre Lovecraft. Il a un peu galéré, cet homme-là. Juste, je veux revenir sur les personnages. On dit de lui que dans ses livres, ceux qui résonnent véritablement, comme ses protagonistes, mettent toujours en péril leur santé mentale. C'est ce que je retrouve un peu dans...
Ah bah mon Wilbur, oui.
Dans ce que vous
mais
dites.
Mais tout, c'est dans Chulu, c'est pareil, dans Innsmouth, dans la...
Alors pour l'info, Howard Philip Lovecraft est né en 1890 à Providence, à Rhode Island, à New York, et mort le 15 mars 1937 dans la même ville. Il n'est jamais allé à l'école avant l'âge de 8 ans. Il en a été retiré à peine un an. Il lit ensuite beaucoup d'écrits scientifiques et astronomiques. 4 ans plus tard, il entre au lycée. Alors après, je vous passe toute sa vie, terreur nocturne, état psychosomatique, dépression nerveuse, tentative de suicide, etc., etc., qui vont le pousser à écrire ses livres d'horreur.
Il meurt de mort naturelle.
Je ne sais pas.
Ouais. Je ne suis pas jusque-là, mais je vais vous le dire avant la fin de cette émission.
J'avais espoir que tu nous dises de quoi il était mort, parce que je n'ai pas du tout, comme tu es censé faire le travail.
C'est vrai, je me suis arrêté avant, à la tentative de suicide avant ses premiers livres. Mais tu vas nous le dire, Valérie. Tiens, ça va te prendre une fois.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est intéressant, c'est sûr, mais c'est quand même Chulu qui est intéressant.
Et du coup, il était il est l'un des écrivains d'horreur les plus influents du XXe siècle, avec Edgar Allan Poe. Il a exercé une influence considérable sur les générations d'écrivains.
Par rapport à la peur, parce que Edgar Allan Poe, il fait peur, mais c'est
pour les générations d'écrivains contemporaines, si tu veux, ils se basent quand ils te disent, quand tu leur demandes qui sont leurs auteurs qui les ont poussés à écrire ce type de littérature, il y a plusieurs noms qui ressortent, dont Lovecraft et dont Poe.
Je suis en train de chercher de quoi il est mort. J'ai découvert ta source de là où tu écrivais tes articles. J'ai exactement mot pour mot ce que tu viens de dire.
Non, c'est génial. Alors, pas du tout.
Non, c'est pas vrai, je lis tes notes.
Ah, t'es pas sympa, je te jure. Bon.
Mais allez, bon, Wikipédia quand même.
On fait comme on peut qu'on lit le livre une heure avant l'émission, chérie.
Non, mais c'est pas. Déjà, tu as lu Vadstena et tu as très bien parlé. C'est pas une marque de céréales hygiéniques.
Et ça, j'ai tout écrit parce que j'ai lu ce livre hier soir. J'étais un peu en avance. J'étais un peu foufou hier. J'ai ma belle-mère à la maison, j'en ai profité pour faire un temps calme.
T'aurais pu parler de ça.
Je suis obligée de lire une BD, belle-mère.
C'est ça. Non, c'est pour le travail.
Excusez-moi, je relis Guerre et Paix, on va pas pouvoir trop discuter ce soir.
Allez, les chemins de Vadstena. Ah, mais c'est rigolo. Mais bon, bref, on reviendra après. Les chemins de Vadstena de Sylvain Runeberg et Thibaut de Rochebrune. Eh bien, je vous dirai, passez votre chemin de Vadstena. Pas grand intérêt, si ce n'est que l'on peut évoquer dans cette émission effrayante, la Dame Blanche, que l'on n'a pas encore évoqué. Vous savez bien, cette dame habillée de blanc qui vous attend au détour d'un chemin en forêt. Eh bien, notre ami Marcus quitte une fête au bord d'un lac pour repartir en voiture quelque peu alcoolisée pour retrouver sa compagne Lina qui est restée fêter le solstice à Linköping, ville suédoise. Et ce satané Marcus, eh bien, il va prendre un stop au milieu de la forêt. Quelle idée ! Une jeune femme qui fait du stop.
Au milieu de la forêt.
Habillée tout en blanc.
Quel con.
Et ouais, qui dit venir de Grenade en Espagne. Donc, il y a très froid. Et oui, dans une forêt avec une petite robe blanche. Parce que c'est une dame blanche, mais avec une petite robe courte.
Oui, mais alors,
je pense que je m'arrête.
C'est la même.
Je suis dans les bois, Charpal. Je pars pour aller voir Pauline. Hop, vous allez où ? Voilà. Eh bien, mauvaise idée, Marcus. Parce que là, alors qu'il est en train de lui parler, il ne voit pas un camion qui arrive en face et vlam, pour l'éviter, il part dans le ravin.
Classique. Ouais.
Classique, il s'en sort sans grande blessure, mais il s'inquiète de sa passagère qui s'est volatilisée. Alors, personne ne retrouve la passagère et cela pose problème car sous l'emprise de l'alcool, il part au tribunal et pour échapper à de lourdes sanctions, doit admettre en fait qu'il était seul. Parce que là, personne ne le croit, les gens qui sont arrivés sur place, les policiers, il n'y a pas de passagère espagnole qui vient de Grenade. Non, ça n'existe pas, cher Marcus. Et bien, donc, il garde dans son esprit cette dame blanche en se disant « Mais c'est pas possible, j'ai menti. » Et là, se crée des problèmes avec Lina qui lui dit « J'en peux plus ton histoire, c'est pas possible. » Il fait des affiches pour la retrouver. Il dit « Mais t'es complètement taré, tu vas me récupérer toutes ces affiches et tu reviens à la maison, tu te calmes et tu me fais un bon bœuf bourguignon comme on fait en Suède. » Et donc, il le fait jusqu'à ce qu'un journaliste qui voit quand même une affiche l'appelle en disant « Ouais, il y a eu d'autres passages surnaturel dans cette forêt, peut-être que vous pouvez témoigner, il est en première page du journal. » Alors cette pauvre Lina qui le voit en première page du journal alors qu'elle avait prévenu, ça se passe encore mal, jusqu'à ce qu'ils prennent la voiture pour retourner dans la forêt et retrouver cette dame blanche. Et là, je m'arrête là, car on arrive à la fin de l'histoire et je ne vais pas vous dire ce qui va se passer, parce qu'il peut se passer plein de choses.
C'est en un tome, alors, du coup.
C'est en un tome, voilà.
Moi, j'ai vu ce qui s'est passé et franchement, tu l'as mieux vendu
Que le livre. Ouais, il n'y a pas...
Ouais, tu t'es enflammé quand même.
Ouais, il n'y a pas grand intérêt.
Il nous a dit passer votre chemin au début quand même. Hein.
Oui, mais il en a parlé avec ferveur, tu vois, comme c'est un bon journaliste. J'ai dit, ah, mais finalement, ça a l'air... Mm. Puis quand même, les images ne sont pas foufou, le sujet n'est pas foufou. Mm. Passer après Lovecraft aussi, c'est compliqué. Et
c'est compliqué. Bah, ça vous évite une soirée avec votre belle-mère. Hein. Ça vous évite une soirée avec votre belle-mère.
C'est vrai. Oui, mais Guerre épée, ça te foutait une semaine tranquille.
C'est vrai. Alors, je ne connais pas cette maison d'édition. Soleil. Je ne sais pas si on en a parlé de Soleil.
C'est pas la collection Hantée.
Non. Il faut se dépêcher, là. Hein. Il est déjà 8h moins 3. On va déborder un peu parce qu'on a beaucoup à dire. Il faut qu'on parle de l'histoire d'un duc qui perd ses filles dans de dramatiques circonstances. Ah! Marlène, la malédiction de Hightmore, Perrin à Craig.
Ou la reprise d'un conte de Grimm revu à la sauce fantastique aussi. Parce que du coup, ça fait, c'est marqué sur la quatrième de couve. Et puis effectivement, quand on lit le livre, les références reviennent. Sur le bal des 12 princesses, c'est puisqu'on a, on est dans un monde fantastique, mais on est sur une île... avec des pêcheurs, avec comment on va dire ça, avec des habitudes de vie et des rites totalement différents sur ces îles que sur le continent. Voilà. Donc la malédiction. Alors j'ai pas tout fini. Parce que il fait plus de 500 pages.
Ah ben bravo.
J'ai cru que j'allais finir.
Moi qui m'ennuie le soir, la veille, le jour même.
Au lieu de passer une soirée avec ta belle-mère.
Ouais, sérieusement, Marlène.
Non, mais par contre, j'en suis à un passage qui me plaît beaucoup et j'ai bien envie de continuer, donc c'est pas mal. Donc je vais faire assez rapide. Donc l'héroïne, c'est une des filles du roi. Donc elle s'appelle Annaleg Thomas. Effectivement, elle a perdu plusieurs sœurs de manière étrange, qui ne paraissent pas étranges aux yeux de son père ni aux yeux des autres habitants, mais à elle aussi et à une de ses autres sœurs, puisqu'au total elles étaient 12, qui revoit ses sœurs et par contre les dessine. C'est-à-dire qu'elle dessine, elle dessine, elle dessine, et en fait, quand elle a dessiné, c'est qu'elle venait de les croiser. Et elle sait comme ça, effectivement, comment elles sont mortes. Et en fait, on se rend compte qu'elles sont mortes pas accidentellement, en fait, du tout. Et en fait, ça fait un énorme... Enfin, un énorme. Un pendant sur l'assassin du mari que j'ai lu, parce qu'en fait, au final, les codes sont un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que c'est une nana... Une nana. C'est une jeune, hein, puisque c'est une petite, mais... C'est une nana qui va parler aux mortes, et les mortes vont lui indiquer comment elles sont mortes.
Et elle va mener l'enquête.
Elle va mener l'enquête. Donc, oui. Au final, je me retrouve avec les deux mêmes styles, mais pas dans le même ancrage historique. C'est-à-dire que sur les assassins, j'étais sur de l'histoire pure. Là, je suis dans un monde fantastique.
Ah, je l'ai déjà lu, tu t'es dit ça.
Ben, oh, c'est ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi. Sauf que là, on est plus sur du fantastique, donc on a quand même plus de...
Mais d'imaginaire.
C'est bizarre, ou de... oui. Et puis, il y a un peu plus de monstres quelque part, parce qu'en fait, il y a la description de ces espèces de calamars qui mangent les tortues autour de l'île, hein, voilà. Et en fait, on voit ces tentacules, on voit ces trucs,
ah,
on se dit c'est bizarre. Donc je sais pas encore ce qui va se passer. Je sais qu'à un moment donné, dans une baignoire, elle a l'impression d'être happée dans cette mer alors qu'elle est dans sa baignoire, hein. Et après, elle a les traces des ventouses sur le corps. Enfin, c'est voilà. Donc
les
j'en
enfants,
suis là.
Vous pouvez quand même prendre un bain en toute sécurité. Il n'y a pas de calamars mangeurs de bébés dans les baignoires en Lozère.
C'est ça. Continue. Et donc après, on est dans les codes aussi du conte, hein, puisque bon, ben on a bien entendu. Le père avec ses 12 filles, il en a perdu. Il a perdu sa femme avant de perdre ses filles. Il s'est remarié à une belle-mère très jeune qui est enceinte d'un garçon. Du coup, elle veut remettre en question les rites de l'île avec normalement c'est il y a pas d'héritage filial, c'est un héritage de l'aînesse. Donc
ah
c'est
oui,
le premier,
oui.
L'aîné qui
oui,
hérite, qu'il soit fille,
forcément.
Garçon, voilà. Ouais. C'est pas le fils. Et elle est du continent, donc forcément, elle aimerait que ce soit les fils, enfin, etc. Donc, on voit que les codes qui s'entremêlent, c'est conte de Grimm, plus la fantasy, plus les vrais codes de fais-moi peur, là, voilà, un peu de spiritisme, un peu d'assassinat, un peu
de,
voilà.
Un peu de strangulation, un peu de noyade.
Voilà, un peu de ça. Allez. Donc, en fait, je suis repartie un peu dans la même chose, sans savoir, parce que je me suis dit, ouais, c'est fantastique, donc ça va pas être pareil. Bah, si.
Et alors, j'arrive pas à voir le public de ton bouquin, là.
Ouais. Hein? Quelle époque c'est déjà?
Mais c'est fantastique, donc
je ne sais pas. C'est nulle époque.
C'est
il paraît qu'à la page 84, il donne la date. Ah, ah bon, mais tu es pas. Ah,
mais si, j'ai dépassé. Ah, je suis à 180. Donc non, c'est un monde fantastique vraiment avec voilà, elle décrit les terres, elle décrit avec des par contre des métiers qui peuvent être qui sont pas fantastiques. Il y a un horloger, il y a des bateliers, il y a enfin voilà, je veux dire c'est. Voilà, mais je crois que j'en sais pas encore trop pour savoir vers où on va. J'en
mais
sais suffisamment,
lire,
voilà.
Ensuite.
J'en sais suffisamment pour savoir que c'est les codes du conte et les codes voilà de
la route.
D'une bonne enquête un peu frissonnante là, mais voilà.
OK.
Voilà.
Ah ben on reste un peu sur notre fin là.
Ben ouais. Oui. Et puis du coup, je suis incapable pour l'instant de
ado ou adulte,
voilà,
sais pas.
Effectivement, je sais pas.
Ouais, je peux
ça fait
dire
pas
un
très
mot.
Peur au début quand même, donc je me dis bon pourquoi
ouais,
pas. Mais j'ai pas lu.
Des fois ça arrive après.
Et voilà. Oui. Je ne sais pas.
Allez, c'est juste Erin. J'aime beaucoup ce prénom. À Craig qui vient de l'université du Michigan, qui était en université en design et production théâtrale.
Mais
qui a toujours voulu écrire des livres qui font peur et son rêve s'est réalisé avec ce premier roman à grand frisson.
Et vu le graphisme et le quatrième de couverture et les petites mentions en bas, je dirais ado.
Ouais, on dirait du J.K.
Oui,
Rowling
ça,
un peu.
Ça vend de l'ado.
Alors,
oui.
Ça, ouais. Ça... Ouais. Moi, il a été acheté dans le cadre de justement réacheter des documents et pour les ados et les jeunes adultes. Mm-hmm. Mais après, pour l'instant, définir exactement quel âge je sais.
En même temps, jeunes adultes, tu l'arrêtes quand? Parce que Ludo et moi, ça. on considère jeunes adultes.
On n'est pas en publication pour la jeunesse.
C'est ça.
Non. Voilà. Donc,
Oui, on n'a pas la loi quand même.
Ah, ouais. Merci Pauline.
Heureusement qu'il y a
cette précision.
Sérieux,
oui,
ben,
quand tu bosses au collège, tu te protèges.
Oui,
attention.
Ça rime.
C'est ça. Mais bon.
Oui, c'est ce que me disait un élève de 3e il n'y a pas longtemps. allez, vite fait, parce que Valérie va parler après de BD, parce que tu parles de contes, donc je prends la suite. Je vais vous parler d'un très joli livre qui s'appelle Frissons de filles. écrit par Edouard Van Denzel et Isabelle Van Denabel. Donc ce sont certainement des Hollandais, mais qui ne sont pas de la même famille, ou peut-être des cousins éloignés, qui parlent de cette histoire de Louise. Qui pense que c'est triste d'être grande, c'est rasoir. Qu'est-ce qui pourrait la faire palpiter maintenant ? Pas de nouvelles de ses copines de classe. Et Bad Boy est-il dans les parages ? Lui qui savait si bien se faire aimer, foutre la trouille en même temps. Eh ben tiens, je m'ennuie, j'ai qu'à filer dans la forêt de la Pétoche, un endroit rêvé pour vivre des aventures et se prouver qu'on a encore un frisson de fille. Un frisson à donner même aux barbes bleues. Car c'est l'histoire de Barbe Bleue, vite fait revisitée, en trois couleurs pour un album de gravure sur bois. Donc j'en ai pas beaucoup lu dans ma vie de gravure sur bois, donc je trouve ça très, très joli. Trois couleurs, des peurs bleues, des joues rouges, des contours noirs. Donc Louise désespère d'avoir grandi et trouve la vie rasoir, je viens de vous le dire. Elle va dans la forêt pour chercher, eh bien quoi, des plantes carnivores. Sauf que là, elle tombe sur Bad Blood Boy, qui fait pipi d'un beau jet parabolique comme il faisait quand il était enfant. Non, en fait, il fait pas pipi à ce moment-là, mais c'est comme ça que le décrit, c'est pour ça que je le dis.
Et que t'as envie de faire pipi.
Voilà. Donc, c'est un conte totalement réactualisé qui garde son mystère. C'est un très beau livre à plusieurs niveaux de lecture. Là, on peut le lire plus jeune. Bon, il y a quand même des têtes dans un placard.
Mais oui, c'est Barbe Bleue, quand même.
C'est Barbe Bleue. Oui. Mais c'est le seul moment.
Il y a un loup massacré là.
Il la protège, il tue un loup, c'est sympa.
Excuse-moi, tu te fais attaquer par un loup, moi je tue le loup. Hein.
Du CE1, c'est le lit, je pense. Et jusqu'à ce qu'elle se rende compte et qu'elle parte dans la forêt, qu'elle retourne dans la forêt. Voilà, c'est tout mimi, c'est tout mignon, c'est joli.
Mais je voulais en parler. C'est pas mimi, 3-4 ans. Quoi.
Oui, non.
C'est mimi qui fout les pétoches, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette maison d'édition.
Qui
n'est pas belge du tout,
non.
Contrairement au nom des auteurs.
C'est les éditions du Rouergue, avant que tu parles de ta maison d'édition belge.
J'allais pas du tout parler d'une maison d'édition.
C'est chez les Rouergue.
C'est pas très loin,
ouais. Mais il y a beaucoup d'Hollandais.
Dans le Rouergue ?
Oui.
Ah bon ?
Tu n'y es jamais allé. C'est bien dommage.
J'ai été moins souvent que toi à Najac, mais je pense que j'ai grandi un peu plus que
Quel
toi dans
beau
le
village, Najac.
Si tu nous écoutes.
Oh là là. Valent te laisse clôturer cette émission, je ne sais pas avec quoi, vu que tu n'étais pas...
C'était rigolo, parce que dans ma sélection, j'ai trouvé une série de livres qui s'appelle Le Mal. Et là, je me suis dit, je vais avoir les BD qui font le plus frissonner. Avec un chat dégueulasse sur la première couverture.
Non, mais tu sais qu'il y a des gens qui adorent ce chat.
Tout moche, là.
Ouais, c'est les chats sans poils.
Oui, mais là, c'est le chat égyptien, mais version moche. Voilà. Et le deuxième tome, Le Mal, Nyctalope, en un seul mot, Ludo. On ne connaît pas quelqu'un qui s'appelle Tarp. Et là, on voit une sorcière dégueulasse qui tient ce chat. Je me dis, on va super frissonner.
Sorcière ou sorcier, tu sais pas trop.
Et là, le sorcier-sorcière que tu sais pas trop, il a bouffé le chat. Et tu sais pas, et le tome 3, et quand même là, ils sont obligés de te dire la fin est révélée, la fin du récit. Parce que des fois que t'es pas envie d'acheter le 4. Non, c'est aïe. Ouais, aïe.
Aïe,
aïe.
Pour le graphisme, j'ai envie de vous en parler. Pour le lieu de l'action, j'ai envie de vous en parler parce que ça se passe à Pont-Saint-Esprit. Et je me dis, c'est basé à partir d'une histoire vraie. Mmh. Et j'en parle parce que ça fait un petit clin d'œil à Jean Tellet.
On a pensé à toi. D'ailleurs, on vous invite à écouter l'émission Happy Hour mardi prochain, 1er novembre, à midi et demi. Bien que ça soit férié, on travaille et on recevra Marlène pour l'émission Happy Hour pour parler du mois du doc. Et paraît-il qu'il y a une chronique sur Jean Tellet.
Peut-être. Moi, j'ai fait une chronique sur Francky Vincent.
Non, j'ai pas dit que. J'ai fait croire qu'on est en direct mardi prochain.
Oui, on sera en direct. Je viendrai. Et je parlerai de Francky Vincent parce que j'adore.
C'est moi qui ai parlé de Francky Vincent.
T'as pas parlé de Jean Tellet.
Non, mais non, il n'était pas mort.
Bien sûr,
parce que c'est le 1er novembre qu'on va l'enregistrer.
Il sera mort là. Voilà. D'accord. Okay.
Non, c'est pourquoi. C'est parce que si jamais j'avais été invitée à une émission en direct qu'on aurait enregistrée avant, le lendemain de la mort de Jean Tellet, j'en aurais parlé.
Ben oui.
Et justement, Entrer dans la danse, ce fabuleux roman de Jean Tellet où les gens, en fait, possédés par un mal particulier, se mettaient à danser. En fait, j'ai appris la mort de Jean Tellet au même moment où je lisais la BD Le Mal, avec des illustrations magnifiques sur la couverture, et qui, à la base, en fait, reprend l'histoire à Pont-Saint-Esprit de gens qui ont été possédés par une sorte de mal qui les a fait danser, mais très vite, parce qu'ils sont très vite morts. Ah. Et en fait, il y a une petite intrigue. Alors, elle, ce qu'elle a de chou, c'est qu'elle se passe pas très loin de chez nous. Ce qu'elle a de pas chou, c'est que ça fait pas vraiment, vraiment peur. Mais il y a une petite intrigue, il y a un petit côté assez sympathique de, où on suit un petit bonhomme qui forcément va venir racheter le manoir au pied de l'église que personne ne veut, qu'il faut absolument pas poser un mur là parce qu'il se passera quelque chose. Il y a un peu de tout dedans. Voilà, c'était, c'était mignon. C'était pour conclure le, les petites baies de Laura, mais c'est parce que ça m'avait fait, tellement fait passer à Jean Telet.
Non, mais c'est mignon, c'est très parler. Bien.
Est-ce qu'au moment où j'apprends sa mort, je lis un truc qui a un lien avec, avec Entrer dans la danse, qui est un de ses meilleurs. Si, si tant soit peu qu'il y ait eu un meilleur.
Merci Valérie.
Non, c'est pas merci.
Quittons-nous
merci,
sur cette note triste, mais oui. Pleine d'espoir. Et en parlant d'espoir,
il
tiens,
nous hanter.
Oui.
Quand tu veux, j'en viens monter. Non, mais c'est fabuleux. Et c'était quel homme, parle-en, Ludo. Je sais pas.
Non, je ne peux pas. Je suis encore sur le coup de l'émotion. Je préfère c'est que Pauline bien. En parle.
Ah non, je repense à une couverture d'un roman de Jean Telet que j'avais chroniqué pour où on a voilà une petite fille sur une.
Mais c'était fais-moi peur, mais il y avait
je l'avais lu avec toi, on l'avait lu ensemble.
C'est d'un côté c'est une petite fille normale et de sur la quatrième de couverture, elle est complètement réorganisée de manière assez terrifiante. C'était mon premier Jean Telet et ça m'a marqué et il résonne aujourd'hui dans notre émission. Juste comme après la mort de Jean Telet, c'est incroyable comme les événements se percutent.
Et c'était l'émission Fais-moi peur d'il y a 2 ans.
Peut-être bien.
C'était pour l'émission Fais-moi peur d'il y a 2 ans.
La couverture est
celle où Valérie était déguisée seule au bar Le Latina.
C'est ça, j'assume totalement.
On vous invite à venir voir les photographies de cette émission.
Garalou.
Sur le
site internet. Avec une jolie petite ado.
Avec un immeuble où les pauvres habitaient en bas, les riches en haut.
Et elle avait ses pouvoirs de faire. C'était assez étonnant. Mon premier Jean Telet.
Et après, on avait reparlé de Telet avec Renan Baudelaire. Cet été où il y avait la sécheresse, je fais une anecdote très courte. Il sécheresse, c'est-à-dire que pendant un mois, il ne pleut pas. Le seul moment de l'été où il a plu, j'étais dans un train et j'étais en train de lire Azincourt par temps de pluie. Et là, il se met à pleuvoir. Enfin, c'est.
Il n'y a pas de hasard.
Non, mais il est mort quand même.
Pourrais-tu parler de Jean-François Copé de la bataille de la Marne quand
tu veux qu'il
il nous quittera prochainement, Valérie?
Tu es en train d'annoncer que t'imagines
je ne sais
meurt.
Pas. Ah ouais,
imagine il meurt, t'es dans la merde.
Heureusement que cette émission n'est pas en direct pour que je puisse couper cette... Ah mais non, on est en direct.
Serais obligée de lire son livre et tu vas aller en prison.
Parlons plutôt de Joël Batz, Gardez
ma vie. Édition illustrée 1984.
Le jour du décès de Joël Batz, cher ami, on a une émission spéciale. Comme il a écrit qu'un livre,
ce
on
sera
va en parler pendant une heure. Allez, on parlait de choses mignonnes. On va parler de choses mignonnes. La prochaine émission en décembre sera une émission d'enfants. Et oui, on va faire parler des enfants sur des livres. D'ailleurs, tiens, je vais faire une annonce, comme ça nous permettra peut-être de moins faire de chroniques. Nous, si vous avez des enfants pendant ces vacances de Noël qui sont disponibles, on ne vous donne pas encore la date, on vous la donnera après. N'hésitez pas à nous contacter par mail sur redact@48fm.org du CP à la 5e, 4e, on dit.
Ok, donc on exclut les 3e direct.
Ouais, non, les troisièmes, ils lisent plus.
Notre animateur.
Ok, donc ton animatrice, elle
vient. Ah, si, alors, du CP. Du CP jusqu'à la troisième.
Inclus.
Et on prend quelques petites sections de maternelle. mais vous nous envoyez un mail pour venir passer l'émission. Vous venez avec votre enfant. On fera un apéro goûter à 16h, un truc
goûter.
Sympa. On enregistrera. Mais pour les parents? Non, c'est pas ce qu'on fait d'habitude.
Un goûter apéro, alors.
On fait un goûter pour les enfants, en buvant une bière pour les parents, en regardant ces magnifiques bambins, parler de littérature, parce que c'est l'avenir de notre pays. Et comme dirait l'autre...
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.